France Info.
Bienvenue dans les informés de France Info. Allons-nous sortir de ce tourbillon d'affaires, de doutes, de troubles, de soupçons vis-à-vis de nos élus? Michel Mercier a donc décidé de renoncer au Conseil constitutionnel. Il est mis en cause, lui aussi, pour avoir employé des membres de sa famille. C'est le premier débat des informés de France Info. Avec ce soir, Olivier Babeau, vous êtes économiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président de la Fondation Concorde. Eugénie Bastier, journaliste au Figaro.
Bonsoir.
Bonsoir. Jonathan Boucher-Peterson pour Libération.
Bonsoir.
Et Aurore Berger, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bienvenue à tous les quatre. Michel Mercier, sénateur, ancien ministre, devait donc rejoindre le Conseil constitutionnel. Il avait été nommé par le Sénat il y a quelques jours, mais il est mis en cause. Enquête préliminaire ouverte contre lui pour avoir fourni un emploi présumé fictif à l'une de ses filles. Quand va-t-on sortir de ce tourbillon, Aurore Berger ?
Déjà, ce qui est clair, c'est qu'il y a une sensibilité des Français qui est beaucoup plus forte aujourd'hui sur toutes ces questions, c'est-à-dire savoir comment l'argent public, qui est l'argent des Français, est utilisé. Je pense que c'est une bonne chose. Vraisemblablement, Michel Mercier a considéré qu'en effet, il n'était pas en situation de pouvoir être nommé au Conseil constitutionnel. Il en a tiré les conclusions qui, à mon avis, s'imposent. On votera demain le projet de loi confiance, le projet de loi organique sur la confiance dans la vie politique, qui permet de mettre fin à des situations qui étaient soit des archaïsmes, soit tout simplement des choses qui n'avaient plus lieu d'être, comme justement les emplois familiaux pour celles et ceux qui pourraient être tentés de continuer.
Olivier Babeau.
Oui, c'est évidemment difficile de ne pas se réjouir de ce progrès, mais au-delà de ça, il faut se rendre compte qu'en réalité, les pratiques qu'on dénonce aujourd'hui, évidemment, Michel Mercier n'est pas le premier, c'est certainement pas le dernier qui va tomber à cause de ça, sont en réalité des pratiques qu'il y a quelques années, il faut le dire, étaient tout à fait acceptées, étaient connues du milieu. Alors certes, elles n'étaient pas connues du grand public, mais elles étaient connues et acceptées. Il y a une évolution des sensibilités, le public aujourd'hui, les citoyens ne supportent pas certaines pratiques, dont acte, on peut s'en réjouir. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que le népotisme n'est que la partie émergée de l'iceberg du clientélisme politique, qui par ailleurs prend énormément d'autres formes, pas toujours pour sa famille, donc là, le népotisme, hein, c'est pour sa famille, mais il y a d'autres formes de clientélisme politique, et j'aimerais bien que ces autres formes aussi, à terme, soient aussi pourchassées, aussi vilipendées qu'elles le sont aujourd'hui pour les aides familiales.
On va quand même juste préciser à propos de Michel Mercier, il reconnaît qu'il a bien fait travailler sa fille, mais lui dit que sa fille a réellement travailler.
Hein. Oui, parce que c'est tout l'enjeu en soi.
C'est tout l'enjeu
de cette question. Les pratiques archaïques, ça c'est autre chose, c'est-à-dire c'est la culture qui évolue, mais formellement, là, ce qui peut intéresser la justice, c'est travail fictif ou pas. Donc c'est, encore une fois, c'est...
Il ne pouvait pas être membre du Conseil constitutionnel dans des conditions comme celle-là.
Non, mais il y a quelque chose de presque... Enfin, il y a des clins d'œil qui sont un peu singuliers. C'est vrai que cette loi, elle s'est ouverte avec François Bayrou, qui l'a présenté en grande pompe, qui très vite a été rattrapé par des affaires qui sont quand même assez similaires. Il était ministre de la Justice, quand même. Le Conseil constitutionnel, oui, c'est pas n'importe quel endroit. On voit que Michel Mercier fait la part des choses. Hein. Il garde ses mandats électifs. Donc ça... Bon, maintenant, il y a évidemment... Il y a des postes qui sont plus exposés, qui demandent au-delà de la légalité, l'exemplarité, la probité absolue. Voilà, on se souvient que Roland Dumas, quand il était au Conseil constitutionnel, avait eu affaire encore plus nettement à la justice pour des faits autrement plus graves. Voilà, il avait démissionné.
Eugénie Bastier.
Oui, il faudrait peut-être rappeler qu'il n'a pas été condamné et qu'il est seulement sous l'objet d'une enquête. Et on se rend compte que ça va quand même de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peine on est soupçonné et sous l'objet d'une enquête, on est obligé de démissionner. Alors après, on peut dire qu'il a démissionné aussi pour récupérer son siège de sénateur, puisqu'il lui fallait 8 jours, sinon après il était trop tard pour récupérer son siège de sénateur. Mais c'est quand même aussi inquiétant de voir à quel point aujourd'hui la mécanique de la guillotine, de la transparence est en place et toutes les têtes tombent une par une de plus en plus vite. Et on se demande où ça va s'arrêter, en effet. Et puis il y a peut-être...
Vous pensez que
c'est pas toutes, hein.
Ouais, oui, mais est-ce que vous pensez justement que c'est excessif?
Bah, c'était excessif parce que en fait la jurisprudence avant il fallait avoir être condamné pour démissionner, après ça a été mis en examen pour démissionner, maintenant
en
c'est
fait,
juste sous le coup d'une enquête.
En fait on va en arriver à une situation à tous ceux qui ont employé un conjoint, un enfant,
et puis après,
devraient démissionner.
Oui, le vrai débat c'est est-ce que forcément parce qu'on emploie un proche il y a un soupçon de fictivité de l'emploi, c'est un vrai débat parce que dans ce cas-là en plus ça privilégie les liens non officiels aux liens officiels, c'est-à-dire que par exemple les députés pourront continuer à employer leurs amants ou leurs amantes parce qu'ils ne sont pas liés par un lien officiel avec eux ou elles, mais par contre, ils ne pourront pas employer leur femme ou leur fille, et je trouve que c'est assez injuste, dans le sens où c'est pas parce qu'on emploie quelqu'un de sa famille que c'est forcément quelqu'un qui ne fiche rien. D'ailleurs, on ne sait même pas dans le cas de Mercier si sa fille, effectivement, n'avait pas travaillé.
Aurore Berger.
Il y a deux questions différentes. Il y a ce qui relève en effet de la justice et est-ce qu'il y a eu effectivité ou non de l'emploi, puisque Michel Mercier a reconnu qu'il avait en effet bien employé sa fille. Il y a est-ce que c'est acceptable ou non que dans un pays qui compte plus de 6 millions de chômeurs, les élus donnent l'impression de se servir d'abord eux-mêmes, de protéger d'abord leur famille en employant des membres de leur famille. Je pense qu'on peut trouver des gens qui sont compétents au-delà du cercle familial parce que oui, de fait, le soupçon existera toujours sur la légitimité à avoir recruté d'abord quelqu'un de son entourage immédiat.
C'est humain aussi. Quand on voit finalement le nombre d'élus qui ont employé de manière fictive ou pas leurs proches, on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que comme vous le disiez,
mais avec la loi,
oui, mais d'accord, mais sauf que toutes ces années où c'était quelque chose de courant et d'accepté par les élus, on se dit que pendant des années encore, ça va remonter.
Et tout ça à la surface. Michel Mercier, il reste élu, hein, il va continuer à gagner très correctement sa vie. On ne parle pas de quelqu'un qui a perdu son emploi, encore une fois.
Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que
Bayrou,
des Michel Mercier, il y en a
François
peut-être
Bayrou, il était ministre de la Justice, il devait présenter une loi qui améliorait les pratiques. Donc l'idée qu'il doit être un peu plus vertueux que la moyenne, je veux dire, c'est quelque chose d'assez compréhensible. Ouais. Je pense que de la même manière, quand on désigne des juges suprêmes dans une démocratie, de dire que le couperet soit un peu plus sévère que ce que pourrait être celui des électeurs, ça se trouve, Michel Mercier sera réélu, mais c'est encore un autre sujet. Là, c'est pas la fin de la carrière d'un homme politique qui se retrouverait brisé.
Valéry Giscard d'Estaing est membre du Conseil constitutionnel.
Ouais,
je crois qu'il doit avoir.
A priori, ça a été supprimé. Enfin, a priori, ce sera supprimé, justement. Donc, réjouissons-nous.
Dans quelques minutes, nous allons justement poursuivre ce débat sur la transparence dans la vie politique avec ce rôle et ce budget, soi-disant transparent, pour la première dame. Mais derrière ce débat, y a-t-il pas une touche de sexisme? Nous allons en discuter dans les informés de France Info. 20h10, toute l'info avec Marie-Gaëtane Comte.
Michel Mercier renonce au Conseil constitutionnel une semaine après sa nomination. L'ancien garde des Sceaux est visé par une enquête pour détournement de fonds publics et soupçons d'emploi fictif. 5 personnes ont péri et plus d'une soixantaine ont été blessées selon l'agence de presse officielle chinoise après le séisme de magnitude 6,5 qui a frappé la province du Sichuan. Le gouvernement redoute un bilan beaucoup plus lourd. Le Kenya, dans l'attente des résultats des élections, notamment présidentielles, qui ont mobilisé les électeurs en masse ce mardi. Pour les 20 millions d'électeurs appelés aux urnes, il s'agissait de voter pour un président, des députés, sénateurs, gouverneurs et représentants des assemblées locales. Les mondiaux d'athlétisme de Londres et les épreuves à ne pas rater pour soutenir les athlètes français avec la finale du saut à la perche à 20h35 avec Renaud Lavillény et Axel Chapelle, la finale du 3000 steeple à 22h10 avec Mayedine Mekissi et Johan Kowal et la finale du 800 mètres à 22h35 avec Pierre-Ambroise Bosse.
France Info. Les informés, Guillaume Caour.
Les informés de France Info avec nos 4 informés aujourd'hui, Aurore Berger de La République En Marche, Jonathan Boucher-Petersen de Libération, Jenny Bastier du Figaro et Olivier Babot de la Fondation Concorde Économiste. Un rôle et un budget donc transparent pour la Première Dame. Depuis le lancement d'une pétition contre un statut de Première Dame signé par 280 000 personnes, l'Élysée a été obligée de se positionner un peu plus clairement sur ses intentions. Le château communiquera donc à la fin du mois sur le rôle exact de Brigitte Macron. Alors ce débat est-il sexiste? Est-il vieille école? Parce que finalement, se poser la question du rôle de la femme du président, quelle est sa mission? Quels sont ses moyens? Est-ce que ça ne renvoie pas au cliché de la femme qui est chargée de la déco et des réceptions?
Aurore
Berger et Eugénie Bastier.
Vous dites budget de la Première Dame, mais si demain on a un président de la République qui est une présidente, cette charte de la transparence s'appliquera aussi à son conjoint, si elle en a. Donc l'idée, c'est que tout simplement, il y ait une transparence sur les moyens qui sont alloués à celui ou celle qui est le conjoint ou l'épouse ou le compagnon ou la compagne du président de la République. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est transparent. Il y a une transparence, enfin, des comptes de l'Élysée depuis Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est une bonne chose, avec une certification par la Cour des comptes. Donc il y a eu quand même des avancées. Mais il faut un moment qu'il y ait aussi une transparence sur la manière avec laquelle les différents moyens sont alloués.
Oui, moi je trouve ça assez pénible qu'à chaque fois qu'une femme soit au milieu d'une polémique ou d'un débat, on utilise l'argument du sexisme de manière complètement systématique. C'est-à-dire que dès qu'une femme est au centre d'un sujet d'actualité, pour, que ce soit pour une polémique ou pour une critique, c'est forcément quelque chose de sexiste. Et là, je ne vois pas du tout le sexisme dans l'idée de faire un statut de première dame. Ça me paraît complètement logique. Et,
Vous paraît logique qu'il y ait un statut pour la première dame
Avoir une fonction parce qu'on est la femme d'eux, ça pose la
question.
Non,
mais ça c'est d'accord, mais la polémique n'est pas sur le sexisme. Parce que,
je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu poser la question dans ce sens. C'est parce que quand on regarde en Grande-Bretagne pour le conjoint de Theresa May, ou qu'on regarde en Allemagne pour le conjoint d'Angela Merkel, on ne se pose absolument pas la question de quel devrait être son statut. Il travaille, point. Ils ont une vie active.
Et là,
vous ne croyez pas que c'est une question parce que que c'est une femme.
Non, très honnêtement.
On ne se posait pas la question, Gordon Brown, de sa femme non plus, et des précédents premiers ministres britanniques masculins.
Des pratiques qui sont différentes.
Olivier Babot.
Je crois qu'en réalité, la vraie chose rigolote dans l'histoire, c'est que nous savons tous que notre 5e République est une monarchie élective. Et en réalité, ce n'est pas à Madame May et à son conjoint qu'il faut nous comparer, c'est à la famille royale britannique. Parce qu'en fait, ce rôle de la première dame, c'est exactement le rôle d'une Lady Di à une certaine époque. La première dame, on attend d'elle qu'elle aille collecter des pièces jaunes, qu'elle aille dans les hôpitaux, qu'elle fasse des choses. Bon, c'est très bien. Elle a ce rôle médiatique. On peut trouver que c'est, pour le coup, c'est plus que vieux jeu, c'est ancien régime. Mais c'est le cas, c'est ce qu'on attend d'elle. Et les médias, quoi qu'elle veuille faire, vont attendre d'elle qu'elle joue ce rôle. Donc je trouve tout à fait logique qu'à ce moment-là, on dise, ben maintenant, entérinons les choses. S'il lui faut un garde du corps, s'il lui faut des moyens.
Mais le statut, ça rend le truc obligatoire. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qu'on va mettre dans le statut? Ce qui dit statut, ça veut dire rôle, c'est-à-dire qu'on va définir.
Mais on n'avait jamais parlé de statut, on a toujours parlé de transparence, y compris pendant la campagne présidentielle.
Je sais que maintenant, c'est très low profile sur ce sujet-là, mais formellement, on se souvient d'Emmanuel Macron quand même qui avait des envolées sur je veux qu'elle ait un statut, je veux qu'elle ait un rôle, elle est importante, son avis est important.
Il dit, il faut lui écrire la fiche de poste.
Voilà,
il a dit, il faut lui écrire la fiche.
Et encore une fois, ça répond à une situation particulière. Là, on sent que Brigitte Macron a très envie d'être première dame, ça peut se comprendre, se justifier. Emmanuel Macron a très envie qu'elle soit première dame aussi. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut créer un statut? L'argent qui est dépensé, on le sait. La masse salariale qui était du cabinet de Valérie Trierweiler, on connaît. Comparé à Carla Bruni, ça a été fait. Les comptes certifiés. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus dans des fonds secrets absolument usés à la seule discrétion de quelqu'un qui n'a pas été élu. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un sujet qui doit faire la chronique pendant longtemps? Je sais pas, une charte de la transparence, sûrement. J'avais l'impression qu'elle existait déjà, la transparence.
Vous parlez de monarchie républicaine, mais les États-Unis ne sont pas une monarchie, mais peut-être même la démocratie par excellence dans la doxa dominante.
On peut être élu sans avoir le
statut de première dame vient directement des États-Unis où la première dame a un rôle actif. On l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, Melania Trump lancer une campagne contre la drogue et les opiacés aux États-Unis en compagnie de son mari, mais elles ont vraiment un rôle proactif. Alors, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la nécessité d'américaniser la vie politique française en copiant ce statut de première dame qui est beaucoup plus officiel aux États-Unis, sachant qu'en effet, de facto, elle a déjà un budget, etc. Après, moi, en soi, je trouve ça dérangeant qu'on mette les choses un peu plus au clair.
Dans Libération, d'ailleurs, Jonathan Boucher-Peterson, j'ai lu un papier qui date d'il y a quelques semaines. Les divers rôles de confidente, bienveillante, de maîtresse de maison et d'icône renvoient à l'ensemble mère, épouse et femme objet. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous? Personne n'est d'accord avec cette idée.
Je dis juste que c'est l'image que vous en avez ou certains en ont. Demain, si on a encore une fois une femme qui est présidente de la République, peut-être qu'elle sera célibataire, peut-être qu'elle aura une compagne, peut-être qu'elle aura un compagnon, que sais-je encore.
L'idée,
c'est de savoir à un moment si oui ou non on accepte que celui ou celle qui partage la vie du président ou la présidente de la République ait un rôle. De fait, il y a un rôle.
Pourquoi Brigitte Macron aurait un rôle?
Mais vous avez 200 personnes, par exemple, chaque jour qui lui envoient un courrier. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces Français-là estiment qu'elle a un rôle à jouer. Ce n'est pas juste les médias qui lui assignent ce rôle parce que, en effet, il y a des demandes d'interview, vous le savez très bien, à peu près tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour, qui lui arrivent. Donc, ça veut dire qu'on attend d'elle qu'elle s'exprime.
Oui, mais c'est parce qu'on la voit. C'est parce qu'elle a été très visible. Mais pour quelle raison aurait-elle un rôle?
Mais pourquoi serait-elle cachée?
Pourquoi aurait-elle un rôle? Pourquoi
aurait-elle un budget? Vous dites on la voit, mais pourquoi serait-elle cachée?
C'est des questions qui sont posées régulièrement.
Non, mais je ne parle pas de se cacher, c'est qu'elle s'est exposée avec son mari. C'est ça que je veux dire.
En fait, vous avez juste une épouse, en effet, qui partage la vie de quelqu'un qui est devenu président de la République. Est-ce qu'elle a à se cacher à partir de ce moment-là? Oui, on l'a vu, en effet. Ça
mais est-ce
paraît
que sa vie
légitime,
se résume à être la femme du président de la République? C'est la question qui se pose. Après, chacun a le droit d'avoir des appréciations différentes, mais de fait, ça résume l'identité.
Je pense que personne ne l'oblige à être là où elle est. Elle a l'air très épanouie là où elle est. Et puis, il y a une dimension d'incarnation du pouvoir qui est indéniable. Et c'est vrai que le pouvoir, c'est une personne, c'est aussi quelqu'un qui a une histoire et qui est un couple, qui est avec quelqu'un qui compte beaucoup pour lui.
Oui, mais ça, c'est une question de sensibilité personnelle. Il y a d'autres gens qui défendront exactement de la même façon. On a élu une seule personne, on n'a pas élu un couple. Voilà.
Ça s'entend
tout.
par un visage invisible.
Vous, vous avez été élu, votre conjoint n'a pas un rôle, et même, c'est même toute la tendance opposée actuellement à l'Assemblée nationale. C'est qu'on ne veut plus de cette présence des conjoints auprès des élus. Alors pourquoi est-ce qu'on prend une direction totalement opposée pour le président de la République ?
On mélange des choses qui sont très différentes.
Ah bon ?
Là, on parle par exemple d'emplois familiaux qu'on interdit. Brigitte Macron, il n'a jamais été envisagé qu'elle soit rémunérée.
Oui, enfin, elle a des assistants et directeurs de cabinet.
Elle n'est pas employée, elle n'a pas des assistants. Elle a une équipe qui, pour l'instant d'ailleurs, c'est des membres du cabinet du président de la République qui lui sont détachés. Elle a un directeur de cabinet, en effet, et secrétaire. Parce qu'en effet, oui, quand vous avez 200 courriers par jour, je pense que vous-même, vous ne seriez pas forcément en mesure de répondre à ces 200 sollicitations par jour. Donc il faut tout simplement que ces gens qui lui écrivent obtiennent à minima une réponse. Ça me paraît juste légitime.
Olivier Babeau ?
Je crois qu'il faut être lucide. Elle a un rôle, enfin la première dame, puis ce genre de fonction a un rôle quasiment religieux, en tout cas moral. C'est-à-dire qu'il y a une attente, effectivement, exactement comme les gens attendent de voir la famille royale parce qu'elle incarne certaines choses, elle représente quelque chose. Eh bien, d'une certaine façon, on attend la première dame justement qu'elle défende des grandes causes, par exemple. Et c'est, on pourrait dire, c'est pas être objectivé.
C'est la vie des premières dames depuis 40 ans, ce qu'on décrit.
Oui, absolument. Mais peut-être que justement aujourd'hui, dire voilà, à partir de ce moment-là. Va pas être obligé de le faire, mais ça va être, va y avoir des moyens qui vont être alloués. Ces moyens vont être transparents. Ils l'étaient peut-être déjà, mais ils vont l'être réellement. Et ça va être quelque chose d'officiel. Je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Moi, ça me choque pas.
Ce qui est très intéressant, c'est on peut noter que les premières dames en France étaient très très populaires jusqu'à Valérie Trierweiler et François Hollande, qui ont un peu dégradé la fonction. J'allais dire, c'est pas d'ailleurs la faute d'abord de Valérie Trierweiler, mais aussi de François Hollande avec l'histoire du scooter, l'histoire etc. Et que depuis ce moment-là, il y a une espèce de soupçons et d'hostilité latente à la première dame, dont cette pétition. La pétition de 200 000 personnes qui l'ont signée contre ce statut montre qu'il y a quand même une hostilité sourde, avec derrière l'idée de la grande question, qui est la question du moment, qui est quasiment le seul critère politique actuel, qui est combien ça coûte, qui devient vraiment une espèce de doxa absolue.
Merci. Dans quelques instants, la suite des informés avec notre débat, des œufs aux pesticides. On vous prépare une omelette juste après les infos de 20h20 avec Marie-Gaëtane Comte.
Sous le coup d'une enquête judiciaire pour l'emploi de ses filles comme assistante parlementaire, l'ancien ministre de la Justice, Michel Mercier, a annoncé qu'il renonçait à intégrer le Conseil constitutionnel. Un séisme de magnitude 6,5 a frappé la province chinoise du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, faisant au moins 5 morts et une soixantaine de blessés. Mais les autorités craignent un bilan beaucoup plus lourd. Emmanuel Macron avait promis un statut similaire à celui de la First Lady américaine pour son épouse, mais l'Élysée se contentera finalement de publier fin août, début septembre, une simple communication pour encadrer son rôle public. Longtemps figure de proue des nouveaux romantiques, l'écrivain et journaliste Gonzague Saint-Brice, 69 ans, a trouvé la mort cette nuit dans un accident de voiture sur une petite route de Normandie. C'était un spécialiste de l'histoire française. Il a écrit des dizaines de romans et biographies.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
20h21, vous êtes devant votre assiette, peut-être votre omelette, et vous vous dites, est-ce que vraiment je la mange, cette omelette? Olivier Babeau, vice-président de la Fondation Concorde parmi les informés, Eugénie Bastier pour Le Figaro, Jonathan Boucher-Peterson pour Libé, et Aurore Berger pour La République En Marche. 30 000 œufs contaminés au Friponil, un doux nom. Il s'agit de 13 lots venus des Pays-Bas. Rappelons ce qui s'est passé. Des éleveurs néerlandais et allemands ont acheté un antiparasitaire il y a quelques semaines, le Dega 16, à une entreprise néerlandaise qui avait trafiqué ce produit avec du Friponil. C'est un anti. Alors, a priori, il n'y a pas de risque pour la santé. Mais une fois encore, ça révèle cette question qui est comment des produits nocifs peuvent se retrouver dans notre assiette. Est-ce que vous pensez qu'on a tiré les leçons des précédents scandales alimentaires quand vous voyez comment on traite celui-ci? Qu'est-ce que vous en pensez, Eugénie Bastier?
Déjà, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on traite des poulets pour les poux. Je suis désolée de poser cette question, mais c'est quand même déjà une question. Ça veut dire que c'est vraiment des poulets de batterie qui sont tellement dans une telle proximité qu'il y a des poux qui apparaissent. Donc déjà, ça montre un peu les limites du système industriel.
C'est un antiparasitaire à l'origine.
Oui,
hein.
Mais ouais. C'est vraiment dû parce que ce sont des poulets qui sont dans une telle proximité qu'évidemment, des parasites se développent. Donc déjà, ça pose la question de notre système de production. Et ce qui me frappe également dans cette crise sanitaire actuelle, c'est qu'on ne sait même pas où sont passés les œufs. C'est-à-dire que le gouvernement est incapable de dire où sont les œufs, dans quel produit produits ont été utilisés, on ne sait pas vraiment. Et ça montre vraiment une espèce de voilà de gigantesque marché un peu opaque qui est devenu le système de production agroalimentaire européen notamment. Et ça pose vraiment des vraies questions, sachant que on pourrait en France être autosuffisant au niveau des œufs puisqu'on produit 101% je crois de notre production annuelle d'œufs, mais on exporte, on en importe, alors qu'on pourrait être autosuffisant. Donc ça pose vraiment la question du local, de l'agroéconomie, et ça pose des vrais débats.
Je vous vois faire oui de la tête, Olivier
Babot. Oui, alors en fait on confond souvent, on a dit beaucoup de questions. Alors à la fois il y a problème aujourd'hui de l'empathie avec les animaux. C'est vrai que on a bien vu aujourd'hui que la façon dont les animaux sont élevés est souvent un petit peu révoltante, et ça met, pourrait dire, en accusation le système de production de masse alimentaire de façon générale. Bon, mais il y a surtout aussi le problème de la protection de la santé du consommateur. Et là, on a fait quand même de réels progrès. En fait, la traçabilité, elle est quand même bien meilleure qu'autrefois. Il faut se souvenir que l'encéphalopathie spongiforme bovine, mieux connue sous le nom de vache folle, n'est-ce pas, a quand même fait plus de 200 morts. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on a beaucoup de mal, à concevoir. L'histoire des œufs, là, on parle de quelque chose qui aurait peut-être, on dépasse un seuil qui fait que si on a une grosse consommation, peut être risqué. On est très très loin. C'est un risque qui est très très fort. En fait, on est devenu, notre seuil de sensibilité au risque, c'est considérablement abaissé. Et aujourd'hui, on est choqué par des choses, pour dire, beaucoup plus rapidement.
Donc pour vous, il y a eu des projets en termes de traçabilité.
Mais oui, par exemple, la viande, l'histoire de la viande de cheval là récemment, c'était une fraude économique. En fait, on mettait la viande de cheval parce que c'était moins cher que la viande de bœuf. Et ben on a pu très rapidement tracer exactement tous les lots qui avaient été impactés. C'était une très bonne preuve.
Alors écoutez ce que dit Ingrid Kragel, qui travaille pour Foodwatch, une ONG qui se défend les consommateurs. Elle n'est pas de votre point de vue.
Les consommateurs ne savent pas où ont fini ces produits contaminés. On ne sait pas s'ils ont déjà été transformés, vendus, consommés. Le ministère ne nous renseigne pas sur les fabricants, les potentiels clients. Et même silence radio, malheureusement, du côté des éleveurs, des fabricants, des distributeurs qui sont pourtant censés savoir. Normalement, les fabricants ont une traçabilité quand même des ingrédients qui entrent dans un produit qui est fait à base.
Le problème, c'est que ces œufs, ils sont transformés en une composition liquide. Et apparemment, on n'a pas encore identifié exactement où ils se trouvent. Est-ce que vous pensez qu'il y a des projets, Jonathan Boucher-Peterson et Aurore Berger?
Qu'il y a
des progrès. Est-ce qu'il y a eu des progrès qui ont été faits depuis les derniers scandales alimentaires?
Oui, après, ce genre d'affaires, évidemment, qu'on se dit qu'il n'y a pas un risque de mortalité, mais ça sert toujours de révélateur. C'est-à-dire, quand on voit moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est l'absence de communication ou la mauvaise communication entre les États. Quand on voit qu'on est encore en train de se renvoyer la balle sur...
Apparemment, la Belgique a mis du temps.
A mis du temps. Il se justifie en disant, on était en train de mener une enquête pour fraude, il fallait pas qu'on ait bruit.
En attendant, les œufs
circulaient. C'est d'où la difficulté aussi à les rattraper. Non, il y a un enjeu, de transparence, de communication, mais c'est comme dans toutes les crises qui concernent ou beaucoup d'usagers à la SNCF, comme on l'a vu récemment, ou là, dans des crises qui peuvent concerner tout un chacun quand il fait ses courses. Voilà, il y a un enjeu à ce qu'on se dise que des choses qui sont évidemment un peu opaques, c'est-à-dire la dimension industrielle, la dimension, et on le voit à chaque fois qu'il y a des crises quand même, on se rend compte qu'il y a un acteur véreux quelque part. Ça arrive rarement par hasard. Donc là, est-ce que c'est un acte malveillant? C'est toujours dans une recherche de produire moins cher, toujours moins cher. Voilà, il y a quand même des mécaniques qu'on connaît bien.
En tant qu'élu, est-ce qu'il y a une prise de conscience pour vous, Aurore Berger, quand vous voyez un scandale comme celui-là?
Il y a une traçabilité qui s'est améliorée, ça c'est quand même indéniable. Après, il y a des circuits de production qui sont extrêmement complexes, mais le ministère a tout de suite diligenté une enquête. Donc après, c'est cette enquête-là qui démontrera, ces œufs n'ont pas été produits en France, mais viennent des Pays-Bas, notamment, et de Belgique. Donc c'est de ces pays-là qu'est partie vraisemblablement la fraude par une entreprise qui était un intermédiaire. Mais si vous voulez, à un moment, le contrôle, normalement, c'est sur le produit final aussi qu'il est réalisé. Peut-être qu'il faut améliorer encore la traçabilité sur l'ensemble de la chaîne de production, mais vous avez une enquête qui a été diligentée extrêmement rapidement, alors qu'en effet, le seuil de risque est quand même extrêmement faible. Tous les personnes qui se sont exprimées sur le sujet, notamment l'Organisation mondiale de la santé qui s'est exprimée sur le sujet, expliquaient qu'en effet, il faudrait une consommation extraordinairement régulière et massive pour qu'il puisse y avoir des potentiels risques.
En attendant, il y a quand même aussi une demande pour...
elle est légitime, la demande.
Pour analyser quel est exactement l'impact sur la santé. Donc, d'un autre côté, on nous dit...
Moi, je me fie quand même à ce que dit l'Organisation mondiale de la santé sur le risque sanitaire. Après, ce qui est certain, certain, c'est qu'à partir du moment où il y a eu vraisemblablement une fraude, il faut savoir par qui elle a été perpétrée et remonter ou redescendre plutôt la chaîne de production de manière à savoir si oui ou non il y a eu consommation dans un certain nombre de produits en France. Mais ça, c'est l'enquête qui le dira.
En fait, moi, je crois qu'il n'y a jamais eu autant de contrôle. Justement, il y a un effet de visibilité. C'est-à-dire que si aujourd'hui tant d'affaires arrivent sous l'œil des caméras, c'est précisément parce qu'il y a des contrôles qui révèlent des trucs qu'autrefois on voyait pas. Par exemple, en 2008, il y avait eu l'affaire de la mozzarella à la dioxine, parce qu'il y avait une contamination. Alors, il n'y avait pas d'acteur véreux, il y avait une contamination par les poubelles de Naples. Et en fait, ça avait été vu... Effectivement, en tout cas, c'était pas une volonté de s'enrichir sur le coup, effectivement, mais en tout cas, c'était mal organisé, bon, ça c'est sûr, et c'est le contrôle et qui a prévu qui a permis de le voir et qui a permis d'éviter qu'il y ait eu la moindre victime. On est très très loin du cas chinois. Je sais pas si vous voyez le cas en Chine, c'est absolument incroyable. Vous avez des affaires, à un moment donné, on a estimé que 10% de l'huile, par exemple, qui était consommée était de l'huile qui avait été récupérée dans les caniveaux par toute une filière. Donc, on est extrêmement loin. On voit aujourd'hui qu'en Europe, on a une sécurité sanitaire, alimentaire, qui est quand même par rapport à ce qui pouvait exister autrefois, assez incroyable.
En termes de consommation, ça pose quand même aussi cette question. Quand vous regardez les étiquettes, vous ne savez jamais d'où viennent les matières premières, et notamment pour ces œufs. Sur les emballages, j'ai jamais marqué.
Non, les étals où les œufs sont vendus ces dernières années, ça a pas mal changé. C'est-à-dire que moi, on avait l'impression d'avoir de l'œuf low cost vraiment de façon flagrante. Aujourd'hui, tout est plein air, élevé au grain, massé. Enfin, ouais, il y a un truc. Et on voit les prix d'ailleurs ont beaucoup, beaucoup augmenté. Hein. Là où ça pose question, c'est qu'on est quand même les premiers consommateurs en Europe. Donc c'est vrai que. A priori, il y a beaucoup d'œufs qui circulent sur le territoire. Ça doit mettre un petit peu de temps pour identifier.
Cédric Herouf est-il un héros ou un délinquant? C'est à suivre dans les informés de France Info. Il est 20h29, les infos dans un instant. D'abord, la météo. Sébastien Léas pour Météo France.
Les derniers résidus de la perturbation vont s'évacuer cette nuit et la façade est retrouvera de belles éclaircies demain matin. L'après-midi, les éclaircies resteront larges entre l'Alsace et Rhône-Alpes, mais des nuages vont bourgeonner sur le relief, donnant naissance à des averses en montagne. En revanche, en Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire, les conditions seront très agitées demain avec des averses fréquentes et des orages. Le temps sera plus agréable autour de la Méditerranée avec un soleil généreux dès le matin, mais le ciel va s'assombrir sur le Languedoc-Roussillon en raison d'averses qui se développeront sur l'ouest des Pyrénées et qui déborderont vers les plaines. Partout ailleurs, la journée verra des éclaircies se dessiner, notamment dans le sud-ouest, mais des averses passagères se feront à nouveau remarquer, prenant même localement un caractère orageux, en particulier du centre au nord. Les températures seront encore en baisse, les minimales seront comprises entre 10 et 22 degrés et les maximales afficheront 17 à 31 degrés.
Merci Sébastien, il est 20h30 sur France Info.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et toute l'info, c'est avec vous, Marie-Gaëtane Comte.
L'écrivain et journaliste Gonzague Saint-Brice, 69 ans, a trouvé la mort cette nuit dans un accident de voiture sur une petite route de Normandie. Le romancier lauréat de l'Interallié en 2002 et dont le nouvel ouvrage Les aristocrates rebelles doit sortir en librairie le 30 août, circulait avec sa compagne près de Pont-l'Évêque. Pour des raisons inconnues, leur véhicule a violemment percuté un arbre. Parmi ses proches, Valéry Giscard d'Estaing, passionné lui aussi de littérature, l'ancien président de la République lui rend hommage.
Je suis très attristé par le décès de Gonzague Saint-Brice. Je le connaissais d'une part très bien, c'était un voisin de Touraine, et j'avais l'occasion de le rencontrer à la manifestation qu'il organisait tous les ans en Touraine, qui s'appelait la Forêt des Livres. Il était un de nos grands spécialistes de la Renaissance française. Il s'intéressait à tous les auteurs, à tous les poètes, et donc, il avait, de ce point de vue, une identité littéraire passionnée et forte. C'était quelqu'un qui avait une écriture extrêmement abondante et naturelle. Une écriture qui était plus proche de la conversation et du discours. Ça n'est pas un romancier, c'est un historien de la littérature.
Valéry Giscard d'Estaing qui rend hommage à Gonzague Saint-Brice, l'écrivain et journaliste décédé cette nuit dans un accident de voiture. Michel Mercier renonce au Conseil constitutionnel une semaine après sa nomination. L'ancien garde des Sceaux est visé par une enquête pour détournement de fonds publics et soupçons d'emploi fictif. L'actualité à l'étranger, c'est ce séisme de magnitude 6,5 qui a frappé la province chinoise du Sichuan dans le sud-ouest reste du pays. Au moins 5 morts, 5 personnes sont décédées et une soixantaine de blessés selon les autorités qui craignent désormais un bilan beaucoup plus lourd. Les opérations de dépouillement ont commencé au Kenya où les électeurs se sont déplacés en nombre pour les élections générales. Pour les 20 millions d'électeurs appelés aux urnes, il s'agissait de voter pour un président, des députés, sénateurs, gouverneurs et représentants des assemblées locales. Un scrutin à enjeu pour éviter les troubles post-électoraux de 2007 qui avaient fait plus d'un millier de morts et un demi-million de déplacés. Les mondiaux d'athlétisme de Londres et les épreuves à ne pas rater pour soutenir les athlètes français avec la finale du saut à la perche dans une poignée de secondes avec Renaud Lavillény et Axel Chapelle. La finale du 3000 mètres steeple à 22h10 avec Mayedine Meissi et Johan Kowal. Et puis la finale du 800 mètres à 22h35 avec Pierre-Ambroise Bosse. 20h33 sur France Info et la suite des informés avec vous, Guillaume Caour.
Les informés, Guillaume Caour.
20h33 avec nos informés ce soir, Aurore Berger pour le groupe de La République En Marche à l'Assemblée Nationale, Jonathan Boucher-Peterson pour Libération, Jenny Bastier pour Le Figaro et Olivier Babot pour la Fondation Concorde. Cédric Herrou a donc été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir fait passer la frontière à environ 200 migrants et en avoir accueilli chez lui. C'était en 2016. Il est devenu le symbole de la défense des migrants de la vallée de la Roya, la frontière franco-italienne. Et à la sortie du tribunal, devant ses soutiens, il semblait bien décidé à continuer.
Même sous la menace, nous avons le devoir de continuer, que nous n'ayons pas honte dans 20 ans, que nous n'ayons pas honte dans 30 ans, parce que nous défendons la vie des gens qui ont droit à être protégés. Et je continuerai à me battre même derrière leurs barreaux, il n'y a pas de problème. Et ce sera à vous à prendre le relais, à venir chez moi, et que le camp qu'il y a chez moi ne s'arrête pas, que ça continue.
Alors Cédric Herrou, héros ou délinquant ? Olivier Babou ?
C'est pas un sujet facile. D'abord, il faut bien comprendre qu'il n'est pas condamné parce qu'il a aidé des délinquants. Parce qu'il y a une loi depuis 2012 qui donne l'immunité aux gens qui aident, les migrants, pardon. Il y a une loi qui donne l'immunité à ceux qui aident, pour des raisons humanitaires et désintéressées, des migrants. Il est condamné parce qu'il les a fait passer. Donc en fait, il a fait plus que les aider. Évidemment.
Il les avait aidés à passer la frontière.
Oui, c'est ça. Donc en fait, il est allé les chercher. C'est pas la même chose que de venir en aide à quelqu'un qui est déjà. Bon. Déjà, il faut bien comprendre ça. La deuxième chose, c'est que depuis évidemment la dernière guerre, on a en France une sensibilité particulière au devoir de désobéissance. Évidemment, on l'a tous. On reproche aujourd'hui à des fonctionnaires de Vichy de ne pas avoir désobéi. Donc on ne peut pas avoir une approche, qu'ancienne de la loi en disant c'est la loi, il faut la respecter absolument. Mais d'un autre côté, la loi ne peut pas devenir un supermarché où chacun prend en fonction de sa morale ce qui lui plaît en disant aujourd'hui, moi, je vais décider de conduire à gauche parce que c'est ma valeur et puis je vais faire ça parce que c'est ma... Non, le principe démocratique, il est là. Je veux dire, s'il y a des députés qui votent des lois, ils sont là pour ça et pour qu'on soit tous d'accord. Et voilà, il faut... Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec une loi, vous faites élire, vous avez un groupe et vous changez la loi. Vous ne décidez pas de ne pas la respecter. Voilà. Donc, oui, c'est un délinquant.
Oui, je suis assez d'accord avec vous. On nous fait passer Monsieur Herrou pour Antigone face à Créon, qui serait le méchant monstre étatique. Mais Antigone ne faisait que recouvrir le cadavre de son frère. Elle ne demandait pas que tous les soldats abattus sur les murs de Thèbes aient droit à une sépulture. Alors lui, il demande vraiment le changement de la loi. Il demande l'ouverture des frontières. Il a un motif politique et militant, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de faire son devoir ou d'aider son prochain. Il veut vraiment changer la loi. Il dit ce slogan, c'est la frontière tue. Il considère qu'on doit ouvrir les frontières et accueillir de manière inconditionnelle les migrants. Et là, on est face à un problème qui n'est plus celui de l'objection de conscience individuelle.
Mais lui, il dit l'État joue pas son rôle, politique. Donc moi je vais le faire en quelque sorte.
Oui, mais donc oui, il juge l'État et il dit que voilà, l'État ne remplit pas son rôle. Et puis derrière, il y a quand même une question qui est intéressante, c'est celle du délit de l'aide à l'entrée et au séjour des immigrés clandestins, qui est aujourd'hui considéré comme un délit, et ce depuis 1938. Est-ce qu'il faut remettre en question cette directive, et à quel prix? C'est-à-dire, ensuite, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est-à-dire que si des gens font rentrer, ça donne quand même un blanc-seing aux passeurs qui, pour le coup, peuvent s'enrichir en faisant rentrer des gens illégalement. Donc il faut peser un peu ce qu'on dit et ne pas proclamer des grandes envolées comme ça lyriques sur Cédric Héroux qui serait un héros
Jonathan.
Sans
non,
poser
j'ai
vraiment les
des
conséquences.
Envolées sur Antigone, mais j'ai pas entendu des grandes envolées sur Cédric Héroux jusqu'à présent en tout cas. Mais non, après, enfin, je trouve ça un peu étonnant parce qu'il a, on le fait passer quasiment pour comme un passeur, en tout cas de dire, il faut le considérer comme un passeur, c'est un militant qui veut les faire rentrer, qui veut ouvrir les frontières. Il a le droit d'avoir toutes ses convictions, c'est évidemment pas pour ça qu'il a été condamné. Là, on est choqué par, enfin, bon, à titre personnel, moi, je suis choqué par cette condamnation, d'autant plus qu'il y avait une première condamnation en appel qui est déjà interpellée, qui avait été l'objet d'un débat, où il était condamné à 3000 euros d'amende avec sursis. On a le procureur de la République qui décide de faire appel, c'est pas automatique, c'est pas obligatoire. Il y a une volonté d'aller plus loin. On fait appel, et là, on alourdit la sanction.
Franchement, c'est le cas généralement en appel.
Ouais, c'est peut-être le cas généralement en appel, mais c'est pas automatique d'aller en appel quand on est le procureur de la République dans ce genre de cas.
Et donc,
cette personne, elle fait pas entrer des gens qui ne viendraient pas. Enfin, elle fait pas un business sur la misère. C'est des gens qui tous les jours à Vintimille, enfin, on allait faire des reportages, ils les voient. Il y a des gens qui passent. Après, ça, lui, son choix personnel, c'est de se dire.
Mais il leur facilite le passage.
Bon, je suis même pas sûr, non franchement. Ils passent sans eux. Il y en a des dizaines qui passent sans eux, hein, franchement. Si Cédric Héroux est l'homme par qui les migrants rentrent en France, je pense qu'on grossit un tout petit peu le trait, quoi. En revanche, ce monsieur-là, il a des convictions, il prend ses responsabilités. J'entends pas un discours plaintif, hein. C'est-à-dire, la peine, il a l'air de l'accepter, d'en faire un sujet. Il explique aussi que, voilà, quand on est paysan dans la vallée de la Roya, se dire, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des dizaines de gens, hein, qui sont dans cette mentalité-là ou dans cette solidarité-là et qui se placent effectivement dans une perspective un peu historique en disant que ça fait partie de leur culture et qu'ils sont fiers de le faire.
C'est clivant.
S'il faut tous les condamner, moi j'aurais honte à chaque fois.
Aurore Berger, vous positionnez comment, vous, par rapport à ça ?
C'est un débat qui est compliqué parce que c'est aussi lié à la personnalité de Cédric Héroux, parce que c'est clairement un militant. Après, c'est pas un gros mot d'être un militant, mais c'est clairement un militant qui fait le choix de s'affranchir de la loi de manière délibérée. Il sait pertinemment qu'il risque d'être condamné. Et finalement, on a un peu l'impression dans ses déclarations encore aujourd'hui qu'il affiche comme un étendard, justement, d'assumer, de s'affranchir de la loi, etc. Et donc, il y a deux choses différentes. C'est est-ce qu'il veut faciliter le passage? Et vraisemblablement, c'est quand même ce qu'il dit, en considérant qu'il faudrait qu'on accueille plus, sans définir de règles sur qui on accueille, pourquoi on accueille,
vous,
dans quelles conditions.
Mais vous diriez quoi, délinquant ou héros?
Mais moi, j'ai pas à juger une décision de justice, tout simplement.
Bah non, par rapport à vos valeurs,
mais non,
aux valeurs que vous défendez.
Je suis désolée, mais il y a aussi une valeur qui est importante qui s'appelle la séparation des pouvoirs.
Ouais.
Et qui fait qu'en général, le pouvoir législatif a pas à juger de décision de justice. Non, mais c'est une décision de justice, oui, quand même, aujourd'hui.
D'accord.
On a l'impression qu'il n'y a pas eu de décision de justice. Il y a une décision de justice qui a été rendue.
Au-delà de la décision de justice.
Permettez-moi juste de respecter la décision de justice.
On ne parle pas forcément que de la décision de justice. On parle de son tempérament, de ce qu'il défend, lui.
Mais moi, je ne juge pas un tempérament. J'ai un avis, par contre, sur la manière avec laquelle on doit faire en sorte de réduire les délais d'instruction, par exemple, sur le droit d'asile, parce que c'est aujourd'hui de 14 mois, et nous, notre ambition, c'est de le passer à 6 mois, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui qui devrait vraiment ressortir du droit d'asile et donc être légitimement accueilli, parce que persécuté.
Dans les Alpes-Maritimes, par exemple.
Il y a deux centres d'accueil qui vont être construits dans les Hauts-de-France, de 3500 places, qui vont permettre.
Ces gens qui arrivent de Vintimille, il n'y a personne. C'est aussi pour ça que cette personne s'engage.
Qui vont permettre et les hébergement et l'instruction. Après, il y a aussi une autre question, c'est est-ce qu'il faut construire un centre d'accueil à cet endroit, ce qui fait qu'on risque d'avoir un problème aussi, c'est-à-dire de pas forcément aider l'Italie qui a déjà du mal à gérer l'afflux de migrants qui arrivent sur son territoire.
L'Italie, elle demande de l'aide assez régulièrement, en tout cas, quand même, en disant
que l'Italie demande,
part,
que non, l'Italie
après,
demande un centre
détail,
de migrants qui faciliterait
le passage. Il y a des gens qui font des démarches.
On va marquer une pause pour les infos de France Info et on revient sur ce débat dans un instant puisque vous m'avez l'air de vouloir rebondir. 20h40, toute l'info, Marie-Gaëtan Comte.
Désespoir de médaille française au cinquième jour des mondiaux d'athlétisme de Londres, avec en ce moment la finale du saut à la perche avec Renaud Lavillény et Axel Chapelle. À suivre tout à l'heure à 22h10, la finale du 3000 mètres steeple avec Mayedine Mekissi et Johan Kowal. Et la finale du 800 mètres à 22h35 avec Pierre-Ambroise Bosse. Michel Mercier renonce au Conseil constitutionnel une semaine après sa nomination. L'ancien garde des Sceaux est visé par une enquête pour détournement de fonds publics et soupçons d'emplois fictifs. 5 personnes ont péri et plus d'une soixantaine ont été blessées après le séisme de magnitude 6,5 qui a frappé la province du Sichuan en Chine. Le gouvernement redoute un bilan beaucoup plus lourd. Les opérations de dépouillement ont commencé au Kenya où les électeurs se sont déplacés en nombre pour les élections générales. Le pays redoute les troubles post-électoraux de 2007 qui avaient fait plus d'un millier de morts et un demi-million de déplacés.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
Les informés de France Info, Aurore Berger pour La République En Marche, Jonathan Boucher-Peterson, Libé, Eugénie Bastier, Le Figaro et Olivier Babeau, la Fondation Concorde, Cédric Héroux, héros ou délinquant. Vous voulez rebondir, Eugénie Bastier?
Oui, je voudrais rappeler qu'il y a des gens qui accueillent des migrants en France de manière totalement légale, des gens qui ont fait de la démarche et qui ensuite... sont avec des associations et accueillent des gens qui viennent en ayant demandé des papiers. Et ils le font généralement dans une relative discrétion. Ils ne vont pas chercher la lumière des caméras en allant chercher les migrants là où ils sont.
Cédric Héroux, les caméras elles sont venues parce qu'il était poursuivi.
C'est une démarche aussi qui est délibérément pour faire le buzz et pour aussi agiter, créer le scandale.
Le buzz a commencé quand il a été condamné.
Non, parce que sinon il pourrait accueillir des migrants. Il y en a beaucoup en France.
Je
ne
sais pas si vous le connaissiez avant. A priori, Cédric Héroux, moi j'ai découvert quand il a été condamné.
Bien sûr, parce que je pense qu'il avait envie aussi de.
Sinon,
les migrants, il y en a des tas en France. Vous allez à Paris, Porte de la Chapelle, vous allez en trouver des migrants. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher en Italie. Donc, si
il habite dans la vallée de la Roya.
Oui, d'accord, mais dans le sud de la France, vous pensez qu'il n'y a pas de migrants qui ont déjà réussi à passer
et qui
sont à la rue.
Je ne pense pas qu'il cherche à être célèbre. C'est sur ça qu'on doit mener le débat.
Je pense que c'est de visibiliser son action, parce que c'est une action qui est politique.
Ce que dit Eugénie Bastier, c'est voilà,
le meilleur moyen de la politiser, d'en faire un objet de débat, c'est de le condamner. Là, il a même été condamné pour avoir occupé les 1000 euros de dommages et intérêts à la SNCF. Pour avoir occupé des locaux inoccupés depuis 91. Enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, c'est juste, ça choque. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais ça choque.
Il y a des lois, elles sont appliquées.
Mais je rappelle qu'il y a des lois et le Conseil d'État a rappelé notamment l'État à la loi pour la façon d'accueillir les migrants à Calais. Donc les lois, c'est pour tout le monde. Quand il faut que le Conseil d'État rappelle à l'État qu'à Calais, oui, il peut y avoir des douches sans que ce soit dit un appel d'air, ça, c'est la loi aussi.
Il vous aura pas respecté la loi.
Mieux que l'État soit exemplaire avant de demander à des militants de respecter la loi. Franchement, je sais pas au tort de qui ça a été fait. Cédric Héroux, je sais pas à qui il fait du tort, à part d'aider des gens qui visiblement sont.
C'est une question de principe, c'est que si on ne condamne pas Cédric Héroux, ça veut dire qu'on estime qu'il n'y a plus de frontières et qu'on a le droit de faire passer des migrants. Donc on donne un blanc-seing aux passeurs. Penser aux conséquences des décisions.
Si
on ne condamne pas Cédric Héroux, on dit vous avez le droit de faire passer des gens à travers la frontière sans que vous soyez condamné. Mais vous faites un message qui clairement, allez-y les passeurs, vous pouvez y aller. Et puis ça veut dire qu'on légitime même la notion même de frontière qui est fondatrice de l'État-nation. Dans ce cas-là, il n'y a plus de frontières. C'est ce que demande Cédric Héroux et c'est extrêmement dangereux dans ses conséquences.
C'est pour ça qu'il est condamné.
Je vois Olivier Babeau avec un regard un peu, un œil un peu rieur en tant que spectateur
Non, vraiment pas, parce qu'il n'y a pas de quoi rire sur un sujet qui est grave, en fait. Qui est grave, et on est bien conscience que malheureusement, il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire qu'on est dans le gris. Je veux dire, évidemment, ça fait plaisir à personne de le condamner. Ça ne règle aucun problème. D'un autre côté, ne pas le condamner en poserait aussi des problèmes. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Le problème de ces migrants, il est probablement et certainement même à traiter au niveau européen. Encore une fois, il n'y a pas de solution française, comme dans beaucoup de cas, comme dans le cas fiscal dont on parlera peut-être tout à l'heure.
Oui, on va parler juste après.
Mais encore une fois, je crois que sur le principe, je veux dire, si moi je suis pour la légalisation du cannabis, je ne vais pas commencer à en faire commerce. Je vais essayer de monter un parti, de convaincre des parlementaires et de changer la loi. Parce qu'il y a un moment donné où la loi, ça fait partie du contrat social. Kant disait que le menteur, il corrompait le lien social.
Donc, il y a un problème de méthode de la part de Cédric Héroux.
Il y a un problème de méthode, voilà. Moi, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il essaye de faire aussi. C'est-à-dire qu'alerter, faire venir des gens qui pensent la même chose que lui. Oui, exactement. C'est un peu cette idée-là, finalement. S'il arrive à faire venir des gens autour de son idée, il va présenter des gens aux élections, ou alors il convainc des parlementaires et il change la loi. C'est très bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça s'appelle la démocratie.
Est-ce que c'est aussi efficace?
Et parfois ça marche. Là, c'est très efficace. Je reconnais que ça peut être un petit peu long, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
En termes de sensibilisation et de poser.
Parce que l'enjeu, c'est.
Là, ça fait 10 minutes qu'on en parle et je pense que les gens qui nous écoutent sont eux-mêmes divisés et peut-être que ça les éclaire et que ça les aide à se forger leur propre opinion.
Oui, mais la question,
c'est. On l'aurait pas fait si Cédric Héroux n'avait pas fait ça.
Oui, mais vous parlez d'efficacité. L'efficacité, c'est quoi? C'est d'être visible médiatiquement? C'est de rendre une cause visible ou c'est d'obtenir des résultats qui sont attendus, c'est quoi l'objectif? Encore une fois, est-ce que c'est de permettre à ceux qui ressortent du droit d'asile d'être accueillis et d'être dignement accueillis dans ce pays? Est-ce que c'est d'accueillir tous ceux qui souhaitent l'être? Lui, je ne sais pas où il se place, j'ai l'impression que c'est plutôt dans la deuxième option.
Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que moi, j'ai l'impression d'avoir entendu depuis au moins deux quinquennats, on va accélérer les délais du droit d'asile. Parce que les gens ont besoin de savoir, parce qu'il faut pouvoir apporter des réponses. Donc chacun met son cliquet,
12
mois,
7
mois,
6
mois. Qu'est-ce qu'on crée concrètement pour que l'asile
commence? Quand vous créez deux centres, par exemple, quand vous créez deux centres de 3500 places, où pour la première fois, vous combinez et l'accueil et l'hébergement avec la question des démarches administratives, puisque ça n'était pas réalisé précédemment.
Mais comment on fait pour raccourcir les délais?
Vous permettez, justement, quand vous accueillez des gens dans un centre centre qui est un centre d'hébergement et que dans le même centre, on peut commencer des démarches administratives, c'est extrêmement différent plutôt que d'avoir des gens,
pour pouvoir répondre dans un délai raisonnable.
Mais on l'a redit qu'il y avait une priorité qui était donnée sur cette question-là.
Est-ce qu'il y a des recrutements
et des moyens qui sont alloués. Vous parlez de l'OFRA, il y a un certain nombre d'ailleurs d'associations qui travaillent, qui accueillent des migrants, qui travaillent avec le ministère de l'Intérieur, et ça se passe.
Ils sont très choqués par la condamnation de Cédric Hérault.
Les associations aussi, elles travaillent dans la légalité. Enfin, encore une fois, est-ce qu'il faut forcément être dans l'illégalité
pour avoir... Elles sont très choquées par la condamnation, vous allez vous en rendre compte.
Est-ce que le combat légitime, il est forcément dans l'illégalité?
Les personnes défendent l'illégalité comme le fait l'oméga du combat légitime.
Est-ce que Jonathan Boucher-Peterson, à votre connaissance, il y a des recrutements pour pouvoir de personnel
pour pouvoir justement
traiter les demandes des demandeurs d'asile.
Si, pour le coup, si c'est fait, il faudra en prendre acte, mais effectivement, il faut mettre des moyens, il faut mettre des gens,
ça demande des moyens.
Comme les 3500 places, c'est en 2018 et qu'il y a un objectif de 12 000 d'ici la fin du quinquennat, enfin voilà. C'est-à-dire, tout ça va être encore très long, quoi. Donc c'est vrai que ça va.
Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un camp de migrants, notamment à Grande-Synthe, mais il y a des gens qui sont sur place, mais les migrants ne font pas la démarche aussi d'aller les voir. Donc il y a aussi une démarche de convaincre les gens de vouloir faire leur demande d'asile en France, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'ils n'ont pas forcément envie de rester en France.
Surtout à Calais, ils veulent pas aller en France.
Voilà, donc il y a aussi ce problème-là qu'on ne peut pas négliger. Est-ce qu'on les oblige?
Personne ne le néglige.
Voilà, et c'est un peu facile aussi. Bon, Cédric Hérault, au moins un mérite, c'est qu'au moins il assume ses actes et que lui, il va peut-être partir. En tout cas, il est condamné à de la prison. Je trouve ça un peu facile de donner des leçons de morale de manière très très facile comme ça sur la crise des migrants, alors que c'est une crise extrêmement complexe et qu'il n'y a pas de solution, encore une fois, la main sur le cœur, en se donnant bonne conscience, en soutenant M. Cédric Hérault, parce qu'il soulève des problèmes qui sont vertigineux et c'est d'accord. Un peu trop facile de s'en sortir comme ça.
Est-ce d'accord. qu'il est 20h48 vous êtes sur France Info, est-ce que je peux vous servir un double Irish? Ça vous parle, ouais, le double Irish? C'est pas le Dijon, hein. C'est le nom d'un montage fiscal qui permet aux multinationales du net d'échapper à l'impôt, notamment en France. Airbnb, c'est notre prochain débat des informés dans quelques instants. Airbnb, c'est 400 000 appartements en France. Paris est la deuxième destination de la multinationale américaine et elle ne paye que 93 000 euros d'impôts. Ce matin, chez nos confrères de RTL, cette actualité faisait débat avec le commissaire européen chargé de la fiscalité, Pierre Moscovici. Lui, il plaide pour une harmonisation européenne, non pas des taux d'imposition, mais des méthodes de calcul des impôts de ces sociétés.
La solution, elle existe déjà en réalité. L'idée, c'est d'avoir une harmonisation des données fiscales, le chiffre d'affaires, l'activité, qui permettent de taxer l'activité de ces entreprises là où elles entreprennent. Il sera plus possible pour les entreprises de jouer au bonneteau, de dérober des bénéfices ici, pour aller vers des pays où la fiscalité est plus légère.
Après Google, Amazon et tant d'autres, voici donc l'affaire Airbnb avec ses impôts et pourquoi rien ne change. C'est la suite des informés dans un instant. Il est 20h50, toute l'info, Marie-Gaëtane Comte.
Il rêve de décrocher son premier titre de champion du monde à Londres. L'athlète français Renaud Lavillenie est attendu pour la finale du saut à la perche en compagnie de l'autre français Axel Chapelle. À suivre comme espoir de médaille française la finale du 3000 mètres steeple avec Mayedine Mekissi et Johan Kowal et la finale du 800 mètres avec Pierre-Ambroise Boss. Sous les coups d'une enquête judiciaire pour l'emploi de ses filles comme assistante parlementaire, l'ancien ministre de la Justice Michel Mercier a annoncé qu'il renonçait à intégrer le Conseil constitutionnel. En Chine, un séisme de magnitude 6,5 a frappé la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, faisant au moins 5 morts et une soixantaine de blessés. Mais les autorités craignent un bilan beaucoup plus lourd. Emmanuel Macron avait promis un statut similaire à celui de la First Lady américaine pour son épouse Brigitte. Mais l'Élysée se contentera finalement de publier fin août, début septembre, une simple communication pour encadrer son rôle public.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
20h51, suite et fin des informés avec Jonathan Boucher-Peterson de Libé, Eugénie Bastier du Figaro, Olivier Babot pour la Fondation Concorde et Aurore Berger pour La République En Marche à l'Assemblée Nationale, avec donc ces bénéfices d'Airbnb en France, 93 000 euros d'impôts précisément, c'est le Parisien donc qui a dévoilé ce chiffre. Olivier Babot, ce chiffre malheureusement il surprend plus, hein. Airbnb ça donne un sport qui est bien connu des multinationales du web. Est-ce que vous êtes capable de nous expliquer simplement comment Airbnb s'y prend pour faire autant de business et payer autant, aussi peu d'impôts?
Alors très simplement, le principe en fiscalité internationale, c'est que vous allez taxer là où la valeur est créée. Mais où est-ce que la valeur est créée? Il y a un vrai débat là-dessus. Il y a deux écoles. Soit elle est créée à l'endroit du producteur, soit elle est créée à l'endroit du consommateur. Jusque-là, c'était plutôt le producteur qui était choisi, parce qu'en général, surtout pour les biens évidemment, mais c'était le cas aussi pour les services, il y avait des usines. Et puis du coup, dans notre droit, on a la notion d'établissement stable. Donc en gros, on faisait porter l'impôt là où il y a l'établissement stable.
Ce qu'a fait
Google, physique, voilà. Ce qu'a fait Google, c'est qu'en effet, ils ont mis leur établissement physique en Irlande. C'est-à-dire, ils ont des choses en France, mais en France, ils ne gèrent pas du tout, en fait, en réalité, ce que vous pouvez avoir sur le net.
Avec une société qui est en Irlande.
Et exactement. Et aux Bermudes.
Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, vous pouvez très facilement donc faire partir de France. Finalement, vous n'avez pas d'activité en France, et c'est justement là-dessus qu'on portait à un moment donné les débats judiciaires. Il y a en effet pas de la justice a reconnu, il n'y a pas d'activité en France en rapport avec cette création de valeur. Tout ça se fait d'Irlande. D'Irlande, ils peuvent effectivement rapatrier le chiffre d'affaires et les bénéfices qu'après, par différents montages, qui peuvent passer notamment ce qu'on appelle le sandwich hollandais, n'est-ce pas, ils envoient ça effectivement dans des paradis fiscaux et le tour est joué.
Emmanuel Macron, candidat, avait promis d'agir. C'était une priorité de son action européenne lorsqu'il était candidat. C'est pour quand, Aurore Berger?
Quand il a discuté notamment avec Angela Merkel le 13 juillet dernier, vous n'aurez pas échappé que la question de l'harmonisation fiscale européenne a été évoquée et qu'il y a un plan d'action commun entre l'Allemagne et la France qui va être présenté. Donc il y a une volonté commune. Là, très, très prochainement, ça a été évoqué le 13 juillet. Donc vous pouvez leur laisser plus que 15 jours pour avancer sur le sujet. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une volonté commune, Allemagne et France, de dire en fait l'imposition doit être là où les profits sont réalisés, en effet, et donc changer la mécanique
qui
était évoquée préalablement.
Donc, c'est ce que disait Pierre Moscovici à l'instant. L'idée, c'est pas d'harmoniser la fiscalité partout en Europe, mais...
Changer l'assiette, quoi.
Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire permettre, c'est taxer là où les profits sont réalisés.
C'est-à-dire qu'au lieu de taxer les bénéfices, on taxe
l'activité, mais après, ça va se heurter aux mêmes limites. Hein. C'est sûr qu'il faut une action conjointe et volontaire.
Mais Airbnb, ils vont dire que le chiffre d'affaires, ils le réalisent en Irlande, puisque la facture, elle part d'Irlande.
Non, c'est différent. La question, c'est où est-ce que le chiffre d'affaires est réalisé? Est-ce que les profits sont réalisés?
Là où il y a les 10 millions de clients.
Donc, là où sont en effet les clients, donc Airbnb, Google, etc.
Pour vous, il n'y aura plus débat.
D'après l'OCDE, c'est sur ça qu'il faut bosser. L'OCDE, je lisais une interview, ils sont censés remettre des propositions en avril 2018. Le sujet, il est clairement dans les tuyaux. Ils ont beaucoup avancé, d'ailleurs, au-delà de la question des GAFA, là, qui prend beaucoup de place.
Les GAFA,
sur la question
donc,
de l'optimisation,
c'est Google, Amazon, voilà, Facebook et Apple.
C'est dans un modèle un tout petit peu différent, mais qui a bien déblayé. Non, mais effectivement, on est dans quelque chose qui pose la question même d'une forme de c'est une question patriotique, de civisme, de... On a vraiment l'impression d'être d'un côté un peu schizo, parce qu'on est quand même tous consommateurs de ces produits-là.
Mais
en même temps, on est tous
dire.
Très choqués dans la contribution.
On n'a pas une forme de responsabilité aussi, nous, en tant que consommateurs.
Bah si, mais je
même
pense
si c'est difficile.
Mais on voit dans tous les domaines. Regardez Volkswagen. Il y a eu des
là.
Chiffres qui sont sortis il n'y a pas longtemps. On pouvait se dire qu'après le scandale du diesel, il y a une sanction citoyenne du consommateur.
Mais
ils n'ont jamais autant
tout.
Vendu de voitures, Volkswagen, par exemple. Donc on se dit, effectivement, chacun s'interroge, chacun est un peu.
Pourquoi il y a cette schizophrénie, Olivier Babeau?
C'est vrai qu'on est tous complètement devenus addicts à tous ces produits-là, et c'est vrai justement que il y a un petit peu un fantasme de la cagnotte fiscale qu'on va pouvoir récupérer si on arrive à faire payer tous ces trucs-là. Et certains disent que ça réglerait tous nos problèmes, y compris nos problèmes de déficit. Voilà, non mais c'est totalement illusoire. En tout cas, il faudrait pas que ce sujet de réforme des assiettes ou des modalités fiscales, qui est un vrai sujet, il ne faut pas se leurrer, soit l'arbre qui cache la forêt de notre incapacité globale à l'Europe à avoir nos propres champions. Et le vrai problème, il est là. On a loupé le tournant du premier Internet et des moteurs de recherche. On est en train de louper gravement
c'est
celui...
C'est compliqué de créer un champion quand on n'a pas non plus les mêmes... quand on a une concurrence déloyale en termes d'imposition.
Oui, le problème de la concurrence déloyale,
elle
est plus complexe.
C'est
ce que j'ai dit,
passons de Sarenza ou l'ancien patron de la
FNAC. Sur les objets connectés...
De toute façon, l'IS, c'est une très petite partie des recettes fiscales. Donc, à la limite, c'est un petit problème en regard de la réelle problématique du monopole sur les données, en réalité, qui est le vrai problème aujourd'hui posé par les GAFA. Le vrai tournant qu'on est en train de louper aujourd'hui en Europe, c'est celui de l'intelligence artificielle. Et on n'a pas le début du quart d'un champion en train de naître dans l'intelligence artificielle. Ça, c'est dramatique, parce que là encore, toute cette source de valeur qui va être créé à partir de ces algorithmes, qu'on ne peut même plus appeler comme ça d'ailleurs, mais de tout ce qui. Ces machines qui vont pouvoir réellement apprendre, tout ça, ça se fait toujours, soit en Chine, soit aux États-Unis. Et ça, c'est beaucoup plus dramatique que les pertes fiscales qu'on est en train de réaliser.
Eugénie Bastier.
Non, mais simplement, c'est vrai que c'est devenu une telle situation de monopole qu'il est difficile d'échapper à ces grands groupes. Et ce qui est assez fascinant, c'est la manière dont l'économie collaborative, qui était au début présentée comme quelque chose de convivial, on allait échanger, il y avait même un peu de gratuité et tout ça, a été récupérée par des grands groupes. Je pense par exemple à BlaBlaCar, qui au départ était quelque chose de consommateurs qui s'entraidaient, qui était vraiment de la pure gratuité, qui ensuite est devenu un business et qui maintenant apporte beaucoup d'argent. Alors après, on peut privilégier en effet des sites alternatifs qui, eux, ne sont pas lucratifs et qui se contentent d'être des plateformes. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile parce qu'il y a une telle situation de monopole que les offres alternatives sont très peu nombreuses.
Je me posais la question cet après-midi en lisant un certain nombre d'articles et de documents sur pourquoi on met tant de temps à agir. Parce que finalement, ces problématiques, là on parle d'Airbnb, mais avant il y en a eu tant d'autres. Est-ce qu'il y a aussi une crainte de représailles de la part notamment des États-Unis? Qui pourraient taxer.
C'est aux États-Unis qu'ils ont eu le plus de problèmes, bizarrement. Airbnb à San Francisco, par exemple, ils ont la vie beaucoup plus dure que Airbnb à Paris. Oui. Donc parfois, c'est presque contre-intuitif. Ouais. Pour le coup, à l'échelle à la force de frappe de Paris, première destination du monde, quoi qu'on en dise, avec son objectif de 100 millions, c'est sûr que. Bon, on est pareil. Je pense que le pouvoir public, il est pris entre l'envie d'être un lieu.
Et pour vous, la question des représailles, elle se pose pas?
Je pense que on dit toujours le GK. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, le groupement des villes pour le climat, mais qui est pour le coup très active.
C40.
Voilà, le C40. On dit on peut avoir ce genre d'équivalent entre Los Angeles, Paris, San Francisco, Berlin. Ça sera peut-être plus qu'avec les États.
Olivier Babot.
En fait, vous avez clairement un problème de lutte de pouvoir, hein. Et ce sont, il faut le savoir, les États-Unis qui ont lutté pour l'instant contre la réforme justement dont on parlait des bases fiscales. La façon de calculer. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont les multinationales, donc en fait, ils les protègent.
Et c'est eux qui récupèrent une partie de l'impôt? Non, même
oui,
pas, ça va dans
même
les paradis fiscaux.
En réalité, le paradoxe,
c'est que les États-Unis protègent
ce mécanisme. Ils les protègent quand même en se disant que de toute façon, ça leur profite. Voilà.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans les informés de France Info. Olivier Babot, Jenny Bastier, Figaro, la une demain, vous l'avez de tête? Non. Là, je vois dans votre regard que vous... Oh là, mince, c'est quoi?
On nous demande de partir beaucoup trop tôt.
J'entends vous chez Peterson non plus.
Non, je cherche.
Allez, Aurore Berger, merci beaucoup également d'être venu dans les informés de France Info.